Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. La traite des personnes au Niger, les moyens de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes, c'est notre thème du jour. Qu'est-ce que c'est que la traite des personnes? Quelles en sont ses différentes formes? Quels sont les moyens de prévention et de lutte contre ces phénomènes? Où et comment se fait la prise en charge des victimes? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous recevons Elhadj Hammad Idi Sanoussi, magistrat et chef de département administration et formation à l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Nous avons également avec nous au téléphone Sidik Moussa, président de CONID, la coalition des organisations nigériennes de droits des enfants, et Maître Hamani Assouman, vice-coordinateur de la coalition des ONG pour la démocratie et les droits humains CODE. Nous avons également avec nous Daouda Halidou Ramatou, assistante chargée de protection à l'Organisation internationale pour la migration OIM. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je le disais tantôt ce soir, nous parlons de la traite des personnes au Niger, les moyens de prévention et de lutte contre ce phénomène et la prise en charge des victimes. Le protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes définit la traite des personnes comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air indique de son côté que l'expression trafic illicite de migrants désigne le fait d'assurer afin d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel l'entrée illégale dans un État parti d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État. Voilà mon introductif. Je commence tout de suite par vous, Monsieur Sidikou Moussa de CONID. Auriez-vous un complément d'information à propos de notre introduction, suivi laquelle?
Oui, merci bien. Je pense que vous avez si bien défini la traite des personnes. Sauf que malheureusement, de plus en plus, beaucoup de personnes confondent effectivement la traite des personnes avec le passage de clandestins. Quoique ces deux types de crimes puissent se chevaucher, des mesures légales et des politiques différentes s'appliquent. Donc ces deux formes de délits se distinguent. Premièrement, le passage de clandestins se fait toujours d'un pays à un autre, alors que cela n'est pas nécessairement le cas de la traite des personnes. À l'intérieur d'un même pays, donc, il peut y avoir traite des personnes. Deuxièmement, les personnes qui entrent clandestinement dans un pays sont généralement consentantes, dans le cas, effectivement, du trafic, ce qui n'est pas le cas, donc, de la traite des êtres humains, qui se fait contre le consentement des personnes concernées. Troisième aspect, peut-être qu'on peut également relever, les personnes entrées clandestinement sont libres de ce qu'elles veulent une fois faire à destination. Contrairement aux personnes victimes de la traite, qui voient souvent leur liberté un peu restreinte et sont forcées de travailler ou d'offrir en cas des services au profit d'autres. Et finalement, les passeurs vivent de ces honoraires-là pour ces services-là.
Merci. Nous revenons au studio pour donner la parole au magistrat Elhadj Hammad Idi Sanoussi, qui est chef de département administration et formation à l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants.
Comme l'a dit mon prédécesseur, grand frère Sidikou, il y a une nette différence entre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, il l'a si bien dit.
Ouais.
Il y a aussi, si vous voulez, l'interaction qui existe entre les deux infractions. C'est-à-dire qu'on peut passer du trafic illicite des migrants à la traite des personnes. Et lorsque le contrat entre le passeur et les migrants ne se termine pas au franchissement de frontières, par exemple, lorsque le migrant est astreint, ou du moins astreint à faire des travaux, donc il ne relève pas du contrat. Donc, par exemple, il peut être astreint, si vous voulez, à travailler pour le compte d'un autre. passeurs. Donc là, on passe du trafic illicite de migrants à la traite des personnes. Donc c'est ça, si vous voulez, l'interaction qui peut exister entre eux, mais pas dans tous les cas.
Ouais.
Dois-je rappeler que le Niger fait partie des premiers pays à ratifier le protocole additionnel relatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Donc on est en bas sur la traite. La définition de la traite, comme vous l'avez dit, c'est une définition, si vous voulez, internationale. Parce que c'est depuis l'existence, la traite des personnes a toujours existé. Mais c'est en 2000 que la communauté internationale s'est accordée pour donner une définition commune normative.
Universelle.
Donc qui est la même. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple notre texte, qui est la transposition même de ce protocole, par exemple la définition que vous avez donnée, donc elle est pratiquement universelle, à quelques points. Parce que quand vous prenez, par exemple, l'exploitation de la mendicité des enfants, par exemple, c'est une infraction, j'allais dire, qui est spécifique à notre pays. Quand vous prenez, par exemple, une autre forme de traite qui est le prélèvement d'organes, c'est quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas, qui n'est pas assez fréquent ou qui n'existe même pas, j'allais dire. La traite des personnes, si vous voulez, fait appel à trois éléments. Il y a l'action de la traite, donc qui désigne le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne. Il y a aussi les moyens de la traite, donc qui comprennent la menace, c'est-à-dire c'est les moyens qu'on utilise pour prendre le contrôle de la victime.
Ouais.
Le troisième élément, c'est l'objet de la traite ou la finalité qui est toujours l'exploitation. Ces éléments ne sont pas cumulatifs, c'est-à-dire ils sont alternatifs. On peut avoir recruté en faisant usage de la tromperie pour offrir d'exploitation. Donc ça n'est pas nécessaire qu'on recrute, qu'on transporte. Chaque élément peut avoir été accompli par un autre individu.
Par un autre individu.
Voilà. Donc, ce n'est pas des éléments cumulatifs.
C'est
des éléments alternatifs.
Ouais.
Par exemple, on parle de recrutement. Pour un trafiquant, j'allais dire, qui vient vous convaincre, il use des stratagèmes pour, par exemple, vous amener à accepter l'offre. Mais c'est une fois, par exemple, dans le pays de destination,
que vous vous rendez compte
que votre consentement a été baisé. Donc ça, c'est les trois éléments, si vous voulez, de la traite.
Bien
il y a ce qu'on appelle aussi la traite des enfants. Vous savez, un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas du temps accompli au regard de notre législation. Donc, pour les enfants, il n'est pas besoin qu'il existe le consentement, par exemple.
Ouais.
Son consentement n'est pas valable. Donc, c'est pour cela qu'on n'exige que deux. L'action et la finalité pour ceux qui concernent les enfants.
L'action accomplie sur cet enfant. Voilà.
Et même pour les adultes, dans tous les cas, lorsqu'on dit que le consentement est violé, donc il n'est pas valable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consentir au préalable pour être exploité.
Merci. Maître Amani Assoumane, vice-coordinateur de la coalition des ONG pour la démocratie et les droits humains, quel complément par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre la traite des personnes, en tout cas, et certaines formes.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Alassane. Depuis un certain temps, on pense que la communauté, le monde a atteint un certain niveau de civilisation. Mais bizarrement, voilà qu'aujourd'hui, qu'on constate que la traite négrière qui est révolue, qui fait partie malheureusement de l'histoire, aujourd'hui, ça refait surface. Parce que c'est une autre traite, c'est vrai, c'est pas la même chose. Mais c'est toujours le truc que c'est l'humain qui est au fond de la chose.
Ouais.
L'humain est au centre de la chose. On pense que l'humain est devenu une sorte de fond de commerce aujourd'hui. Et c'est là où ça doit tiquer la relation. En tout cas, nous autres acteurs, ça doit faire réfléchir les gens par rapport à beaucoup de choses. Mieux, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte sécuritaire qui vient aggraver, puisque quand on parle de migrants, quand on parle de migration irrégulière, c'est un phénomène récent. C'est vrai, c'est aussi vieux que le monde, mais si ça prend de l'ampleur aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui nous sommes dans
il y a de nouveaux facteurs,
notamment l'insécurité ou autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous assistons à ce qu'on appelle le trafic illicite des migrants. Nous assistons à la traite des humains, à la traite des êtres humains. Mais pour compléter ce que mes prédécesseurs ont dit, effectivement il y a un certain nombre de nuances par rapport à ces deux thématiques. Mais toujours est-il que, comme il l'a si bien dit, tout ce que je dois ajouter, c'est que quelque part, le consentement est là, bien sûr. Le consentement doit être exprès. Disons le consentement, pas exprès, mais je veux dire, en plus du consentement, c'est que dans le trafic illicite des migrants, quelque part, c'est comme si c'est un contrat. Dès qu'on franchit la frontière, parce que c'est un crime transfrontalier, à la différence de la traite qui peut être sur place.
Oui.
Donc là également, il faut que dès l'instant où le contrat est chose, quoi, le contrat, c'est de faire transiter la personne d'une frontière à une autre. Ou bien, disons,
d'une frontière à deux ou plusieurs
frontières. Une fois que c'est arrivé à bon port, je pense que le contrat est presque accompli. Ce qui n'est pas le cas de la traite qui continue. La traite, c'est un truc qui ça peut être perpétuel. La traite peut, ça peut se faire sur place, ça peut être d'une frontière à une autre, pas nécessairement comme l'autre l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas nécessairement pour la traite, mais pour le trafic illicite des migrants, forcément il faut d'une frontière à une autre ou d'une frontière à plusieurs autres. Le deuxième élément, c'est que l'exploitation est continue dans les cas de la traite, ce qui n'est pas le cas, peut-être pas forcément dans les cas de trafic illicite des migrants. Une fois que, par exemple, comme je l'ai dit, pour me répéter, que le contrat, que le gars est arrivé à bon port, on pense qu'effectivement le contrat est accompli, chacune des parties a eu à
jouer, quoi. Sauf que Hamaidi l'avait souligné qu'il y a un point de jonction quelquefois avant de traverser ces frontières. Il y a des choses qui se passent.
Oui, aujourd'hui tout
qui sont du domaine de la traite.
Voilà, tout ce qui fait le problème, la complexité aujourd'hui de la tâche, qu'est-ce qui fait la complexité de la tâche de nos autres acteurs, c'est qu'aujourd'hui, comme le magistrat l'a si bien dit, c'est des domaines qui s'impliquent. Il y a une sorte d'implication entre les deux domaines. Vraiment, si c'est pas, il y a une sorte d'implication entre les deux domaines, le trafic illicite des migrants et la traite des personnes.
Elijah Hamaidi, vous voulez réagir avant qu'on ne passe à un suivant point? Oui.
Il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui concerne la distinction claire entre le trafic illicite de migrants et le trafic de personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord deux textes qui définissent le trafic et le trafic de personnes. Donc, de l'autre côté, c'est le trafic, c'est le protocole additionnel à la convention, à la CTO, relatif au trafic par terre, air et mer. Et de l'autre côté, c'est le protocole relatif à la traite, en particulier des femmes et des enfants. Donc, de par même la définition, donc les deux infractions sont distinctes. La difficulté, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des cas où, par exemple, vous allez voir, par exemple, dans le cas du trafic, les candidats, si vous voulez, à l'Europe. Généralement, c'est un contrat qui est conclu entre ces candidats et leurs passeurs pour rallier la Libye et puis l'Europe. Mais le plus souvent, quand ils arrivent au Niger, c'est surtout les femmes. Surtout les femmes, donc elles sont piégées, elles sont contraintes à se prostituer. Alors que le contrat initial, c'était donc de les amener...
Faire transiter pour aller.
Donc c'est là où il y a, si vous voulez, une imbrication entre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. Donc c'est un cas de trafic qui devient, si vous voulez...
Qui peut déboucher
à un cas de traite, par exemple.
Quelles sont les différentes formes de traite de personnes qui sont fréquentes pour le cas du Niger, notre pays?
Donc, au Niger, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle l'exploitation de la mendicité, l'exploitation de la mendicité d'autrui, c'est-à-dire l'exploitation de la mendicité des enfants talibés ou l'exploitation de la mendicité forcée. Par exemple, quand vous prenez les talibés, c'est-à-dire les enfants qui sont confiés aux marabouts dans le cadre de l'apprentissage coranique. Depuis que les marabouts ont tendance à migrer avec les enfants dans les villes, là, il n'y a pas de soutien des parents pour les marabouts. Parce que le marabout n'a pas d'autre source de revenus que, par exemple, de ce que les contributions que les parents lui donnent.
L'exploitation de la mendicité.
Donc, la tendance à utiliser ces enfants, par exemple,
pour les rechercher
à manger et puis imposer l'argent aux enfants une quantité, par exemple, journalière, donc pour pouvoir, par exemple, subvenir lui aux besoins de sa famille. Bien. C'est aussi le cas, par exemple, si vous voulez, de la servitude pour dette. La servitude pour dette. Donc, qui est un type de travail forcé qui se produit lorsque la dette est utilisée pour maintenir une personne sous la contrainte, par exemple. C'est comme si vous travaillez en contrepartie d'une dette sexuelle.
Nous allons donner la parole à Sidiku Moussa, qui est au téléphone, qui va d'ailleurs, après son intervention, nous quitter pour d'autres occupations.
Oui, si vous permettez, rapidement,
allez-y, Sidiku.
Pour en arrière, pour un peu rappeler quand même à nos auditeurs, qu'avant 2010, quel était le contexte, par exemple, au Niger? Il y avait plus ou moins un vide juridique. Ce n'est qu'à partir de 2010, notamment le 16 décembre 2010, avec l'ordonnance 2010-86 relative à la lutte contre la traite des personnes, que la question, en tout cas, de cette pratique-là a commencé, en tout cas, à ne plus être tabou. Je me rappelle que, de par le passé, plus précisément en 2007, notre organisation a eu à, par le biais de la gendarmerie de Toro, d'y interpeller un marabout. Ça a été tout un boucan, parce que c'était vraiment pas quelque chose que les gens pouvaient admettre, notamment la question, par exemple, de l'exploitation par la mendicité des enfants. Et tout à l'heure, l'intervenant de la NTLP l'a si bien relevé. Au niveau des éléments constitutifs pour les enfants, c'est-à-dire que toutes les personnes dont l'âge est compris entre 0 et moins de 18 ans, on a juste besoin de deux éléments. l'action et la finalité. Mais aujourd'hui, la véritable pandémie pour le Niger, c'est la question de la mendicité des enfants. Et à ce niveau, peut-être c'est le lieu quand même que vous m'offrez d'interpeller l'Agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes. Malheureusement, on a constaté, à partir donc de 2014 ou 15, après donc la rencontre de Malte, j'allais dire, malheureusement, les pays ont vite fait de revoir leur législation pour beaucoup prendre en charge la question du trafic illicite des migrants. Et la communauté internationale, malheureusement, a positionné beaucoup plus de ressources sur cette thématique-là en oubliant de l'autre côté la question de la traite des personnes, des êtres humains. Et ce qui a fait que le constat, et ça je le dis, même au niveau de l'Agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes, on a constaté un moment quand même qu'il y a eu un fléchissement beaucoup plus tendant à être sur la question de la migration.
Que sur la traite à proprement dit.
Voilà, la traite est devenue plus ou moins le parent pauvre. Maintenant, vous avez si bien dit également, une autre difficulté peut-être auquel il faut peut-être faire allusion ici, c'est la collaboration transfrontalière. La question de la traite ou la question, par exemple, du trafic illicite des migrants est une problématique transfrontalière. Ce n'est pas quelque chose qu'un seul État peut régler, ce n'est pas quelque chose qu'une seule institution peut régler. Il faut un travail en synergie. Et malheureusement, de plus en plus, on constate qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu, de par le passé jusqu'en 2008, régulièrement se tenait le comité qui réunissait l'ensemble des pays de la sous-région, où le siège du comité était basé donc à Abidjan, notamment de l'accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des personnes, et qui même élargit à l'Afrique centrale, où un plan d'action a été élaboré. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que ce plan d'action est devenu et quel est le niveau aujourd'hui de l'opérationnalisation de ce comité-là. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, très malheureusement, je crois que l'agence ne peut pas me contredire, ces questions-là sont traitées directement par des agences du système des Nations Unies au détriment des structures nationales.
Alors, aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, M. Sidiku, c'est concernant spécifiquement les enfants. Est-ce qu'en dehors de l'exploitation de la mendicité des enfants, est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres formes d'exploitation qui peuvent être qualifiées de traite pour le cas des enfants?
Il y a aujourd'hui, par exemple, les enfants qui sont guides mendiants. Il y a aujourd'hui les enfants qui travaillent encore dans les carrières artisanales, notamment dans l'orpaillage, sur les sites d'orpaillage. Il y a également l'exploitation économique, les jeunes filles domestiques qu'on voit aujourd'hui, qu'on paye à peu près à 5 000 à 10 000 francs par mois, alors que cela ne représente même pas le SMIC, sans compter également les conditions sécuritaires dans lesquelles ces enfants-là travaillent. Il y a aussi l'exploitation sexuelle. À Niamey, aujourd'hui, il est très fréquent de constater des maisons de passe dans certains quartiers périphériques. Et même sur certains artères de la ville de Niamey, vous allez voir la vie, par exemple, des jeunes filles qui se prostituent comme ça. Quand vous les prenez de côté, elles vont vous dire qu'elles appartiennent à des réseaux. Donc, c'est dire qu'effectivement, en dehors de la mendicité qui, pour nous, aujourd'hui, est la véritable gangrène, il y a d'autres phénomènes connexes. Il y a aussi, tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé, la question de la servitude. Ce qu'on appelle communément les questions aussi de cinquième épouse, le système de Wahia, où des jeunes filles souvent sont données parce que simplement elles appartiennent à un statut social inférieur, au maître ou en tout cas au cercle du maître, des choses comme ça. Là. Donc c'est des phénomènes qui existent. En plus de ça, aujourd'hui vous avez constaté de par le passé, très souvent des enfants qui disparaissent dans la ville de Niamey, on ne sait pas qu'est-ce que ces enfants-là deviennent. À un moment, on a retrouvé dans certains pays des réseaux où effectivement, il y a ce trafic d'organes et c'est généralement prélevé sur cette frange-là, notamment les moins de 18 ans. Donc c'est un phénomène qui est complexe.
Pour terminer avec vous, Sidiku Moussa, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, au niveau du CONID, vous faites pour la prévention ou la lutte contre, en tout cas, ces phénomènes pour le cas des enfants concernant les enfants?
La CONID est une structure fêtière qui regroupe 92 ONG et associations actives sur les questions de promotion et de protection des droits de l'enfant. C'est-à-dire sur l'ensemble des 8 régions du Niger, nous avons une assise. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Il y a beaucoup d'ONG qui sont membres de notre coalition, comme EHPAD, comme SOS Enfants Victimes de Violence, comme AER, qui font de la prise en charge directe. Non seulement il y a l'identification des victimes souvent que nous faisons, nous faisons également le référencement. Nous faisons la prise en charge des victimes en termes de prise en charge alimentaire, prise en charge sanitaire. Nous faisons également la recherche de famille et la réintégration familiale. Souvent, ça peut être à l'interne, souvent, ça peut être en transfrontalière. On a aussi un réseau au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à travers l'Union des coalitions ouest-africaines, mais aussi à travers la plateforme de la société civile panafricaine, le CSO Forum, où facilement, on peut s'échanger des informations pour pouvoir identifier des victimes ou faire, par exemple, souvent le signalement. Mais nous faisons beaucoup plus de la prévention au niveau communautaire pour dire aux parents, par exemple, sur la thématique de la mendicité des enfants, aujourd'hui, c'est inadmissible que des parents ne comprennent pas que l'initiation au courant ne se fait pas dans les grands centres. C'est une perversion de la société. On ne peut pas prendre un enfant d'un village où il y a 20, 30 cases pour l'amener dans une ville comme Niamey pour lui dire d'apprendre. Non, pas du tout. Nous
Merci.
Sensibilisons les parents par rapport à ça.
Merci Sidikou. Merci d'avoir été des nôtres. Et voilà, nous revenons au studio. Nous accueillons d'ailleurs Daouda Halidou Ramatou, qui est assistante de protection à l'Organisation internationale pour la migration. Vous nous prenez en cours sur cette question de traite des personnes et l'Organisation internationale des migrants pour la migration, OIM, aussi intervient sur ces domaines. Est-ce que rapidement vous pouvez nous dire le domaine spécifiquement sur lequel vous travaillez?
Merci de l'occasion que vous m'offrez pour partager avec vous les activités que nous menons dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. L'OIM, nous avons 6 centres d'accueil et de transit au niveau de Niamey, au niveau d'Agadez, au niveau de Dourkou et au niveau d'Arlit. Donc, dans ces 6 centres-là, nous donnons l'assistance directe aux migrants. Donc, parmi le lot de migrants que nous accueillons souvent les victimes de la traite des personnes. Donc, c'est une prise en charge totale que nous offrons et allant de la prise en charge alimentaire jusqu'à la réintégration à travers un projet de vie. Donc, à part cette assistance directe que nous offrons aux migrants, nous avons un autre volet d'appui aux institutions du gouvernement intervenant dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, et notamment l'Agence nationale de lutte contre la traite et la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. À travers ces deux institutions-là, nous appuyons à travers des formations sur la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, et nous appuyons périodiquement l'agence pour faire une collecte des données, et parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le manque de données a beaucoup été cité dans les rapports, notamment le rapport JTIP du département d'État américain. Donc, nous appuyons l'agence pour la collecte des données sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Nous appuyons également à élaborer un mécanisme national de référencement des victimes de la traite. Donc, c'est un document qui aide les intervenants à avoir une position claire. Donc, c'est un document qui les oriente pour que les victimes puissent avoir une prise en charge de qualité. Et donc, voici en gros ce que nous faisons.
Alors, Elhadji Hamma Idi, Sanoussi magistrat et à l'Agence nationale de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Quels sont les moyens de prévention et de lutte existants aujourd'hui au Niger contre la traite des personnes?
Merci. Avant de parler des moyens de prévention,
oui,
je dois rappeler au grand frère Sidoukou que, au fait, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants, ne s'est pas penchée à un moment sur la question du trafic illicite des migrants. Au fait, nous avons toujours, si vous voulez, associé les deux thématiques quand nous faisons nos formations. La preuve en est que, par exemple, quand vous prenez les différentes éditions de la célébration de la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes, c'est dédié à la traite des personnes. Les thèmes centraux, si vous voulez, qui ont été abordés à l'occasion de cette journée ont toujours un lien avec, si vous voulez, la traite des personnes. Pour preuve, rien que l'édition passée à Ottawa, c'était la gestion de la traite des personnes, la gestion de la traite des femmes et des enfants dans un contexte de migration et de libre circulation des personnes.
C'est-à-dire
que c'est que de la prévention. Au fait, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes donc entreprend des actions de sensibilisation. Par exemple, nous organisons, si vous voulez, des forums. Nous organisons à l'endroit, bien entendu, des acteurs. Par exemple, comme vous voyez, en février 2019, donc nous avons organisé un forum de sensibilisation à l'endroit des transporteurs, qui sont des acteurs, des transporteurs, par exemple, à Kony, qui sont des acteurs. Avec l'OIM, on en a fait à Tinta. Avec beaucoup d'autres acteurs, nous ciblons, si vous voulez, donc la population concernée. Par exemple, quand vous prenez, on en a fait à Meyi, évidemment. Dans le cadre toujours de cette prévention, par exemple, nous renforçons la capacité des FDS. C'est-à-dire, nous avons organisé avec aussi le soutien de nos partenaires et nos conférences, si vous voulez, à l'école de la gendarmerie. Donc, l'année passée, pour au moins informer les gendarmes sur les risques donc récurrents qui sont liés, si vous voulez, à la traite des personnes. Et nous organisons aussi des conférences débat, comme cette conférence avec les médias.
Excusez-moi de vous interrompre. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui les textes réglementaires et législatifs sont suffisamment garnis pour faire face à toute cette question de traite de personnes et de trafic illicite de migrants?
Je ne sais pas. Au fait, vous savez, la question de la traite des personnes, si vous voulez, elle ne peut pas être aussitôt, si vous voulez, éradiquée. C'est-à-dire, autant qu'au niveau de l'agence ou du moins au niveau de l'État, on cherche les moyens pour éradiquer ces problèmes, autant donc les acteurs, c'est-à-dire les trafiquants, autant ils cherchent aussi à sophistiquer
à s'adapter.
Voilà. C'est pour vous dire que, en tout cas, en ce qui concerne nos textes, nous sommes assez outillés. Parce que l'ordonnance 2010 est relative à la lutte contre la traite des personnes, à travers ces 98 articles, c'est un texte quand même qui, je pense, il est assez étoffé. Et c'est un texte quand même qui nous permet, si vous voulez, de pouvoir réprimer, si vous voulez, ce phénomène. Maintenant, effectivement, la question de ce qu'a évoqué Sidoukoula, la question de la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes, par exemple, pour revenir sur que... Les biens, au niveau de l'agence, nous avons fait un projet. On a fait un projet de texte, naturellement, avec le ministère de tutelle. Donc, c'est un projet, si vous voulez, sur la question de la mise en place du fonds spécial d'indemnisation des victimes. Donc, c'est dans le circuit, donc nous attendons.
Bien. Voilà. Oui. Maître Hamani Assoumane, vice-coordinateur du CODE, en analysant, l'intervention des différents acteurs, et les moyens de prévention, les moyens juridiques et réglementaires, en tout cas de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore des aspects qui sont mal couverts?
Le phénomène de la traite, effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas du tout cerné par les choses, par les différents acteurs. Mm-hmm. C'est un phénomène, ça prend de l'ampleur. Mm-hmm. Il y a de différentes variantes, excusez-moi de la tautologie, oui. Il y a des variantes de la chose, et ça prend de l'ampleur. Mm-hmm. Aujourd'hui, certains aspects ne sont pas bien maîtrisés par même les différents acteurs. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, dans certains secteurs, par exemple, agricoles ou industriels, l'industrie des mines, il y a des jeunes qui travaillent 16 heures sur 24. 16 heures sur 24 dans le truc. Donc, c'est des différents aspects qui vont, je vais dire, c'est des aspects qui échappent même aux choses, et en monde rural. C'est des aspects qui échappent même aux différents acteurs. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui, le phénomène est tellement ancré dans une chose, quoi. C'est devenu un phénomène mondial au point où aujourd'hui, par exemple, il y a des années de cela, là, ce qui a le plus ému la communauté internationale, c'est la traite des choses. C'est la vente des esclaves aux choses, la vente aux anciens des esclaves aux choses. Ce qui n'a jamais, même au plus fort de la traite négrière, on n'a jamais chose, quoi. C'est pour dire que c'est des aspects, aujourd'hui, comme c'est un domaine qui génère assez de ressources. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est porteur assez de revenus. Donc, c'est fait que ça prend des choses, que ça prend de l'ampleur mêlée à l'insécurité qui est aujourd'hui, depuis la gouvernance sécuritaire mondiale de 2001 aux États-Unis. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a différentes formes de criminalité transformateur internationale qui s'organisent. Et ça génère vraiment du sous. Et le mieux, c'est qu'il y a une sorte d'implication, comme je le disais tantôt, le magistrat ne va pas me contredire, il y a une sorte d'implication entre ces différents acteurs, entre ces différents réseaux criminels. Maintenant, pour revenir à l'aspect législatif et réglementaire, je pense que, effectivement, c'est du coup l'a si bien dit, avant l'avènement de l'ordonnance 2010, il y avait une sorte de vide juridique. Et depuis cette ordonnance-là, on a constaté qu'il y a une sorte de fluctuation juridique à un moment. Parce qu'il y avait, effectivement, comme l'autre l'a dit, c'est mêlé au trafic illicite des migrants. Donc, à un moment, les textes n'étaient pas, les praticiens n'étaient pas tous d'accord par rapport à la mise en œuvre de cette loi, à l'applicabilité de cette loi. Les acteurs de la société civile n'étaient pas tout à fait d'accord parce que nous voyons l'aspect répressif et non l'aspect préventif. Donc, il y a toutes ces différentes choses, quoi. Il y a une sorte de fluctuation juridique et jusqu'à présent, je pense que c'est pas encore bien cerné. Pour revenir à votre question proprement dite, il faut mettre l'accent sur l'aspect préventif de par la loi. La loi ne doit pas être répressive. Moi, c'est mon point de vue en tant qu'acteur de la société civile. La loi ne doit pas, il faut pas mettre l'aspect, en tout cas,
l'accent sur le
L'aspect répressif, il faut mettre le volet préventif pour cela. Il faut mettre des mesures, il faut prendre des mesures institutionnelles, il faut prendre des mesures d'accompagnement de différentes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est un domaine qui n'est pas assez connu. Les victimes ne sont pas prêtes à dénoncer le truc par peur, par un certain nombre de choses, d'intimidation. C'est malheureusement les personnes les plus vulnérables qui sont en situation parfois d'insécurité juridique parce que celui qui quitte une frontière à une autre, qui n'est pas, on tape promis telle chose, moi et merveille pour venir faire telle chose, c'est un autre aspect. Vous venez, vous voyez que le passeur n'a pas tout, il te met dans un autre circuit, donc vous voyez, c'est ce qui fait l'invulnérabilité. Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur la coopération internationale, comme l'autre l'a dit. Il faut uniformiser les lois, parce que la loi, il y a l'article 3 du protocole de Palerme, c'est ça qui donne une définition classique de la traite des humains.
Mais est-ce que déjà en interne au Niger, est-ce que les différents acteurs intervenants sur ces questions, est-ce qu'il y a une collaboration?
Malheureusement, c'est là où le bas blesse, parce que le protocole, permettez-moi de citer ce protocole de Palerme là, qui dit que la composante société civile doit être intégrée dans tout ce qu'il y a eu comme chose, quoi. Tout au long du processus, la société civile.
Et vous n'avez pas cette impression?
Nous avons l'impression que nous ne sommes pas toujours pris en compte, notamment par rapport aux différentes réformes. Moi, je pense qu'il faut nous associer par rapport aux réformes. Nous avons des autres choses, par exemple, rien que par exemple, j'ai la NTP en face de moi, j'ai l'avantage, l'occasion de ce, c'est le moment de dire que chaque fois que vous parlez de sensibilisation, moi je pense que à l'occasion des journées de lutte contre le 28 septembre chaque année, là, vous voyez, vous invitez les femmes, les associations féminines, mais les associations de défense des droits de l'homme, je pense qu'il faut associer, il faut nous associer pour chaque 10 décembre, pourquoi pas, c'est une proposition que je fais. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme.
Merci,
chaque 10 décembre, nous faire
oui.
Donc chaque 10 décembre, nous inviter la société civile pour que nous puissions donner de la voix, pour que nous puissions échanger, pour nous outiller par rapport à cette question.
La société civile est représentée au niveau de la commission, et la commission elle élabore les stratégies. Nous, on ne fait que mettre en œuvre.
D'accord. Nous aborderons la dernière partie avant de clore cette émission sur la prise en charge des victimes. Alors, au Niger, en juillet 2019, à Zender, l'OIM et l'Agence nationale pour le trafic illicite des migrants ont ouvert le premier centre d'accueil pour les victimes de traite dans le pays début janvier, fin décembre plutôt. Notre correspondant à Zender, Mustapha Mansani, s'est entretenu avec Abdoulaye Lawali, qui est le gestionnaire du dit centre, sur les premières victimes que le centre a accueillies. Et je vous propose de l'écouter.
Le centre est désormais fonctionnel avec donc la réception de nos premières victimes, 7 victimes de la traite en provenance de Kano, Nigeria, en partance pour l'Arabie Saoudite. Toutes des mineurs, sauf une qui est mariée, qui a l'âge de 22 ans, mais toutes les autres, l'âge varie de 14 à 18 ans. Et elles sont en partance pour l'Arabie Saoudite sous le guide d'un intermédiaire, d'un indicateur, comment on l'appelle, qui a malheureusement fui quand il a vu les autorités nigériennes.
Que fait le centre pour accompagner ces femmes?
L'objectif du centre, dès sa création, c'est d'aider, d'assister les victimes donc à rentrer dans leurs droits et donc à leur apporter une assistance juridique, judiciaire, et psychologique et même sociale au vu de leur réinsertion. Et entre-temps, elles doivent avoir un hébergement et un suivi sur leur santé.
Voilà, vous venez d'écouter Abdoulaye Lawali, gestionnaire du centre d'accueil donc des victimes de la traite des personnes à Zender. Alors, Daouda Halidou Ramatou, assistante protection à l'Organisation internationale pour la migration, quel commentaire vous avez envie de faire sur cette intervention, sachant que votre organisme, l'OIM, était partie prenante dans la construction, en tout cas la mise en place de ce centre?
Juste pour compléter ce que le gestionnaire vient de dire par rapport au centre de Zender, c'est un centre qui a été financé avec un financement du département d'État américain. L'OIM a appuyé la réhabilitation du centre parce que c'est un terrain qui appartient à l'État. L'OIM a réhabilité. L'OIM prend en charge également tout ce qui est nourriture, tout ce qui est les frais, les soins médicaux. L'OIM prend en charge pour toutes les victimes qui sont accueillies dans ce centre-là. Et l'OIM prend en charge également les kits, donc tout ce que les victimes ont besoin, tout ce dont elles ont besoin lors de leur séjour. Et après leur retour également, l'OIM prend en charge les projets de réintégration.
Et ce séjour varie de combien de temps?
Alors, le séjour dépend de la situation de la victime, parce que s'il s'agit par exemple d'une mineure ou d'un mineur, et il faut qu'on fasse le retracement familial et tout ça, c'est un processus qui prend un peu de temps. Donc, tout dépend, c'est au cas par cas. Mmh. Tout dépend de la situation de la victime qui est accueillie au niveau du centre-là. Mmh. Je voudrais aussi aborder un peu par rapport au centre, l'OIM appuie également le comité de gestion, parce que le comité de gestion se réunit de manière mensuelle. L'OIM appuie également ces réunions-là. Je voudrais aborder la question de la lutte contre la traite des personnes. Et je pense que dans un contexte de lutte contre la traite des personnes, il faudra retenir quatre axes principaux. Et notamment, le premier axe, c'est la prévention. Donc, faire des activités de prévention telles que les sensibilisations, les formations, les études. Le deuxième axe, c'est la protection. Donc, il faut mettre en place un système qui permet aux victimes qui sont accueillies d'être prises en charge. Il faut également intensifier la poursuite. Donc, je pense
la poursuite que contre les auteurs.
Contre les auteurs, bien sûr. Parce que si, même si on sensibilise, on a des cas, si on ne met pas un point sur ce volet-là, les trafiquants vont toujours continuer à œuvrer.
Et le quatrième,
c'est le partenariat. Donc, comme l'a dit mon voisin du code, je pense
Hamani,
que c'est
très Hamani
important.
Asman, ou la collaboration,
la collaboration
entre les
acteurs. Et le partenariat au niveau national et même au niveau transnational.
Merci. Alors, El Hadj Hamaidi Sanoussi, voilà. Quel est le bilan que vous faites de ce centre, en tout cas, mis en place à Zandar?
C'est l'ordonnance 2010-86 relative à la lutte contre la traite des personnes, donc qui prévoit même la création donc de ces centres, tout comme si vous voulez la mise en place de fonds dont je venais d'évoquer tantôt. C'est une avancée, bien entendu, dans la lutte contre la traite des personnes, parce que lutter contre la traite des personnes ne veut pas dire seulement réprimer, mais aussi prendre en charge, si vous voulez, les victimes.
Comme c'est que tout à l'heure, Daoudara Alidou Ramatou vient de nous rappeler cet aspect de la protection.
L'OIM, à travers Ramatou, l'a évoqué, fait. L'agence, sous la conduite de la DG, donc nous avons pu avoir gracieusement, si vous voulez, ce centre qui abrite aujourd'hui, ce terrain qui abrite aujourd'hui le centre. Donc c'est le gouvernorat de Zander qui nous a offert gracieusement ce centre. C'est le lieu donc de le remercier. Avec l'OIM, nous avons travaillé ensemble pour le rendre opérationnel. Vous l'avez évoqué qu'en juin 2019, donc ce centre a été inauguré. Je me réjouis aujourd'hui que ce centre soit totalement opérationnel parce que
il y a des victimes.
Et pour parler aussi, donc ce qui m'amène à parler donc de la coopération. Je vous rappelle que je vous informe que nous avons été à la suite, si vous voulez, d'une étude qu'on a faite. Donc, avec le soutien de l'OIM, donc sur la situation des femmes migrantes dans la région de Dagalès. Donc, cette étude a révélé qu'il y a beaucoup de femmes nigériennes donc, qui sont victimes de traite au Niger, notamment à Dirkou, à Arlit, à Agadez. Et fort de ça, donc, sous la conduite toujours de la DG, avec l'appui d'un partenaire, nous avons été au Nigeria, rencontrer l'agence sœur, la NAPTIP, avec laquelle donc nous sommes convenus, si vous voulez, de travailler ensemble pour une meilleure prise en charge aussi bien des victimes nigériennes qui sont confrontées, si vous voulez, à des situations de traite,
comme c'est le cas vers d'autres pays pour
l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un point qui a largement été discuté avec les deux DG. Tout comme, par exemple, la question, par exemple, des sensibilisations qui seront faites dans les communes transfrontalières. Donc, pour pouvoir, si vous voulez, sensibiliser les gens sur les risques liés à la traite des personnes. Pour revenir au centre d'accueil, vraiment tu l'as dit, au fait, c'est un centre, si vous voulez, qui est à ses débuts. Ça marche bien pour le moment, donc je pense que le reste,
l'air
n'est pas encore au bilan. Nous nous projetons très bientôt d'aller à Zander pour pouvoir sensibiliser, si vous voulez, les gens, parce que avant la création du centre, c'est des familles d'accueil qui, de manière volontaire, acceptent, si vous voulez, d'accueillir les victimes. L'avantage, si vous voulez, de la création du centre, c'est bien d'apporter une assistance immédiate donc aux victimes, les aider, si vous voulez, à rentrer dans leurs droits, mais aussi coopérer avec la justice. C'est-à-dire la création du centre peut, au niveau de l'agence, nous permettre, si vous voulez, d'améliorer nos statistiques. Parce que quand la victime, si vous voulez, elle collabore, quand la victime collabore, si vous voulez, dans le cadre de la procédure, on a plus de chances, si vous voulez, à condamner.
Voilà. Justement, parce que c'est cette question que je voulais poser, cet axe de la poursuite. Comment l'agence prend en charge cette question de la poursuite des
autres? Vous savez, comme l'a dit notre partenaire, Chaque année, donc, nous commanditons, si vous voulez, une étude, c'est-à-dire une équipe qui est dépêchée pour être dans les juridictions, dans les unités d'enquête, dans les associations, effectivement, pour voir, si vous voulez, l'ampleur. Et c'est en fonction de ça, par exemple, que nous travaillons sur certains aspects, par exemple. Alors, si il y a une question, une forme de traite qui est récurrente dans telle région, ou si, par exemple, il y a c'est tel phénomène qui prédomine, donc nous insistons, si vous voulez, sur la formation. Des formations, si vous voulez, accès, c'est-à-dire, des fois, nous réunissons donc les magistrats et les FDS pour au moins qu'ensemble les gens aient une même vision, si vous voulez, sur la question de la question du trafic illicite des migrants, afin qu'il y ait au moins beaucoup plus pour que les enquêtes soient plus bien peaufinées, en fait.
Dernière question à tous. Comment aujourd'hui lutter efficacement contre les différentes formes de la traite des personnes au Niger?
Si vous voulez intensifier d'abord la sensibilisation, on a parlé de la question de la mendicité. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les parents sur le fait que l'apprentissage du Coran ne se fait plus. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de démission des parents. Par exemple, pour la question de la mendicité, il faut responsabiliser les parents. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, un forum, je ne sais pas, national pour la question de la mendicité.
Et là, Jama, est-ce que vous pouvez aller du point au point, parce que nous n'avons pas assez de temps, est-ce que vous pouvez aller du point au point sur les différentes, voilà, en tout cas, pistes qu'il faut aujourd'hui.
Pour ce qui est pour la question de l'esclavage, qu'on n'en a pas parlé, qui est aussi une forme de traite, ouais. Là aussi, il faut qu'il y ait, si vous voulez, un débat clair sur la question. Voilà. Effectivement, nous, au niveau de l'agence, on envisage même de faire une étude, si vous voulez, sur ces pratiques, c'est-à-dire voir la persistance. Pour preuve, à la célébration de la dernière journée là qui s'est tenue à Ottawa. Donc il y a un thème qui a été discuté, par exemple, sur la persistance des pratiques esclavagistes au Niger.
Madame Daouda Ali Douramatou, quelles sont les pistes aujourd'hui que vous pensez être à même de contribuer davantage à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes?
Alors, comme je l'ai dit tantôt à travers les quatre axes-là, je pense qu'on doit insister beaucoup sur la sensibilisation. Je pense qu'il y a un grand travail de sensibilisation à faire et aussi de formation à travers pour les acteurs même qui interviennent dans le domaine. Je pense qu'il y a un grand travail de sensibilisation à faire au niveau des magistrats, au niveau des différents acteurs qui interviennent sur la thématique. Il faut aussi intensifier la répression, parce que s'il n'y a pas la répression, les trafiquants vont toujours courir et ils vont toujours continuer à exploiter les victimes.
Mettre à manier, terminer.
Si vous voulez préventif, là, on ne peut pas me dire plus que ce que en tout cas, les standards, s'il y a des standards en la matière. C'est-à-dire, le protocole de Palerme a dit, voilà, que les quatre axes qu'elle vient de citer.
Oui.
Mais en plus de ça, moi, je pense qu'il faut essayer des sous-composantes de ces quatre axes-là. Il faut outiller les structures. Puisqu'aujourd'hui, comme l'autre l'a dit, la chaîne pénale, on constate que les organes de poursuite, quoi, on constate que que ce soit les policiers, que ce soit au niveau des commissariats, il y a même une étude qui a été faite et on a constaté qu'il faut une sorte d'implication, comme l'autre l'a dit, entre le trafic illicite des migrants et la traite. Donc, il y a une sorte de climat technique. Il faut qu'on outille techniquement les différents acteurs. Il faut les structures qui sont mises en place là. Il faut les doter de moyens. L'ANLTP, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, c'est des structures étatiques différentes. Moi, je pense que l'aspect institutionnel, il faut outiller, il faut aller de l'avant. C'est ce qui rentre. Puisque l'État du Niger, en ratifiant ces différentes conventions, ces différents textes internationaux, il a pris l'engagement de mettre à l'interne ces différents, de les mettre à travers
le cadre institutionnel et légal
à l'interne. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut, il faut mettre en avant sous ces différents aspects-là.
Oui, pour finir.
Que les OSC s'impliquent dans la question de la prise en charge des victimes aussi. Voilà.
Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme du forum d'aujourd'hui qui portait sur la traite des personnes au Niger, les moyens de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes. En résumé, nous retenons que la traite des personnes est un phénomène mondial qui se caractérise par trois éléments principaux, à savoir l'action de la traite qui désigne notamment le recrutement, le transfert, le transport, l'hébergement ou l'accueil, et il y a les moyens de la traite qui comprennent les menaces, les pressions pour prendre contrôle de la victime. Le troisième élément, c'est la finalité de la traite qui est toujours l'exploitation de la victime. La traite des personnes est un phénomène donc qui existe au Niger sous diverses formes. Nos invités pensent que les acteurs étatiques et non étatiques doivent concentrer leurs efforts sur quatre axes pour lutter efficacement contre la traite des personnes. Il s'agit notamment de la prévention, de la protection des victimes, de la poursuite contre les auteurs et du développement d'un partenariat entre les différents acteurs intervenant sur cette question. Voilà, nous étions en compagnie de Elhadj Hamma Idi Sanoussi, magistrat et chef de département administration et formation à l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Maître Hamani Assoumane, qui est vice-coordinateur du Code collectif des organisations non gouvernementales pour la démocratie et les droits humains, et Daouda Halidou Ramatou, qui est assistante de protection à l'Organisation internationale de migration. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou et la technique était assurée par Issa Lawali.